pensa Juan Diego à sa sœur. Il voulait savoir de qui on tenait notre façon de hausser les épaules. L'anglais aussi, tu l'as appris tout seul? Demanda lentement Pépé au garçon. Tout à coup, la petite lui fichait la frousse. Il n'aurait pas su dire pourquoi. L'anglais, c'est différent de l'espagnol, mais pas trop, je comprends, déclara l'adolescent comme s'il parlait encore du langage de sa sœur. Pépé s'était mis à penser en accéléré. Il avait là deux enfants hors du commun. Le garçon disait tout ce qui lui tombait entre les mains, rien ne semblait résister à son intelligence. Quant à la petite, c'était une autre histoire. Lui apprendre à parler normalement serait une gageure. Pourtant, n'était-il pas, à tous égards, le genre d'élève doué que l'école des jésuites recherchait? Cette femme qui travaillait sur le basurero avait dit que Rivera n'était pas le père du jeune lecteur, mais tout comme. Qui était son père alors, et où vivait-il? En outre, rien n'indiquait la présence d'une mère dans le capharnaüm de cette bicoque. Parce que si la menuiserie était bien faite, tout le reste partait à volo. « Dis-lui qu'on n'est pas des enfants perdus, puisqu'il nous a trouvés !» enjoignit tout à coup Loupé à son petit prodige de frère. « Dis-lui qu'on n'a rien à faire dans un orphelinat. Moi, j'ai pas besoin de parler normalement. Tu me comprends parfaitement. Dis-lui qu'on a une mère. D'ailleurs, il doit la connaître. Dis-lui que Rivera est un vrai père pour nous. Dis-lui qu'il vaut mieux que n'importe quel père, jefe. » « Pas si vite, Loupé. Comment veux-tu que je lui dise quoi que ce soit si tu parles aussi vite ?» Ce n'était pas rien de traduire tout ça à Pépé, à commencer par le fait qu'il connaissait sûrement la mère des gosses de la décharge. Elle officiait la nuit, Calle Saragossa. Mais elle travaillait aussi pour les jésuites, comme femme de service principale. Qu'elle travaille la nuit, Calle Saragossa, laissait à penser qu'elle se prostituait. Et frère Pépé la connaissait en effet. Cette Esperanza était la meilleure femme de service des jésuites. Et c'était bien d'elle que les enfants tenaient leurs yeux noirs et leurs haussements d'épaules désinvoltes. Quant à l'origine des dons de l'adolescent pour la lecture, elle était beaucoup moins claire. Détail révélateur, le gamin n'avait pas présenté Rivera alias Jefe comme son père ou tout comme. Il avait déclaré qu'il n'était sans doute pas son père, mais sans en exclure la possibilité. Il y avait du « peut-être » dans l'air, voilà ce qui ressortait de son propos. Quant à ce qu'il soit celui de Loupé, c'était exclu. L'adolescente avait le sentiment d'avoir des tas de pères, trop pour les nommer. Cependant, son frère passa sur cette impossibilité biologique sans s'apesantir. Il précisa simplement que Rivera et leur mère n'étaient plus ensemble quand Esperanza était tombée enceinte de Loupé. Dans son récit circonstancié et bien maîtrisé, il expliqua que le patron de la décharge était un vrai père pour eux, un père en mieux, qui leur avait donné un foyer. Il fit écho à Loupé. Ni lui, ni elle n'avaient rien à faire dans un orphelinat. On n'est pas des enfants perdus aujourd'hui, et on n'en sera pas demain. On a un foyer ici, à Guerrero. On a du boulot sur le basurero. Au fait, s'interrogea Pépé, pourquoi ces enfants ne travaillent-ils pas avec les autres comme pepenadores? Pourquoi n'étaient-ils pas en train de fouiller les ordures? Était-il traité mieux ou plus mal que les autres gamins de la décharge qui vivaient à Guerrero? Mieux et plus mal, répondit sans hésiter Juan Diego. Frère Pépé se rappela le dédain de la lecture exprimé par les autres enfants. Dieu sait ce que les petits charognards pensaient de la sauvageonne incompréhensible qui lui faisait froid dans le dos. Rivera ne nous laisse jamais quitter la baraque sans lui, expliqua Loupé. Cette fois, Juan Diego ne se contenta pas de traduire, il développa. Rivera les protégeait efficacement. C'était un vrai père, et plus qu'un père pour eux, puisqu'il subvenait à leurs besoins et veillait sur eux. En plus, il nous bat jamais, coupa Loupé, ce que Juan Diego traduisit fidèlement aussi. Je vois, dit frère Pépé. Mais il ne faisait qu'entrevoir la situation des deux gamins. Certes, elle était meilleure que celle de bien des enfants qui se livraient au tri des détritus. Et elle était pire aussi, car ces charognards ainsi que leur famille étaient jaloux d'eux. Et puis, tout en jouissant de la protection du préfet, ils n'étaient pas vraiment ses enfants. Quant à leur mère qui travaillait la nuit à Calle Saragossa, C'était une prostituée qui n'habitait même pas Guerrero. Il y a de la hiérarchie partout, songea tristement Pépé. C'est quoi la hiérarchie? Demanda Loupé à son frère. Pépé commençait à se douter qu'elle lisait dans les pensées. La hiérarchie, c'est que les autres gosses de la basura se croient supérieurs à nous. Tout à fait, ponctua Pépé, un peu mal à l'aise. S'il était venu faire la connaissance du gamin de la décharge, le fameux lecteur de Guerrero, pour lui apporter des livres en bon instituteur, il découvrait que c'était lui, le maître, qui avait beaucoup à apprendre. C'est alors que le chien invisible, mais audible en permanence par ses protestations, se montra. La bestiole aux allures de belette qui sortit de sous le canapé où elle était tapie ressemblait davantage à un rongeur qu'à un chien. « Il s'appelle Blancsal. C'est un chien, pas un rat !» lui lança Loupé, indigné. Juan Diego a sorti sa traduction du commentaire suivant. « Blancsal, c'est un sale petit lâche et un ingrat. » « Je l'ai arraché à la mort !» s'écria Loupé. Tout en se coulant dans les bras tendus de la fillette, le chien efflanqué et bossu découvrait ses babines et ses crocs. « On devrait l'appeler « Reviens de loin », pas « Blancsal », dit Juan Diego en riant. Quand elle l'a trouvé, il avait la tête prise dans un carton de lait. « C'est un chiot, et il mourrait de faim !» protesta Loupé. « Il est resté sur sa faim !» spécula Juan Diego. « Arrête !» dit sa sœur. Le chiot frémissait dans ses bras. Pépé essayait de réprimer ses pensées, mais c'était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Il aurait mieux fait de partir, même de façon abrupte, que de laisser l'enfant extralucide lire en lui comme dans un livre ouvert. Il ne tenait pas à ce que cette innocente sache ce qu'il en était. Il démarra sa coccinelle et quitta Guerrero sans avoir repéré la moindre trace de Rivera ni de son chien à la sale gueule. Les fumerolles du basurero entouraient de toutes parts le jésuite au grand cœur, à l'image des idées noires qui l'assaillaient. Le père Octavio et le père Alfonso considéraient la prostituée Esperanza, la mère des enfants, comme une femme déchue. Pour les deux vieux prêtres, on ne pouvait pas tomber plus bas que cette malheureuse. Il n'existait pas d'être humain aussi perdu. Les jésuites l'employaient donc comme femme de ménage en prétendant pieusement vouloir la sauver. Mais ces enfants de la décharge, ne fallait-il pas les sauver eux aussi? Ne faisait-il pas partie de ces âmes en perdition? La chute ne les guettait-elle pas tôt ou tard, une chute plus vertigineuse encore? Lorsque l'enfant de Guerrero, devenu adulte, se plaignait à son médecin des effets secondaires des bêta-bloquants, il aurait fallu qu'il ait frère Pépé auprès de lui pour témoigner de ses souvenirs d'enfance et de ses rêves les plus terribles. Même les cauchemars du lecteur de la décharge valait de rester dans les annales aux yeux du jésuite. Dans sa prime adolescence, le rêve le plus récurrent de Juan Diego n'était pas un cauchemar. Il rêvait souvent de vol, si on peut le qualifier ainsi. Il s'agissait d'une locomotion aérienne singulière et inconfortable qui ne ferait guère de ressemblance avec l'action de voler dans les airs. Le rêve était toujours le même. Dans la foule, des gens levaient les yeux. Il le voyait marcher sur le ciel. D'en bas, au niveau du sol, on aurait dit qu'il marchait précautionneusement à l'envers. Il n'y avait rien de spontané dans cette traversée du ciel. Il ne volait pas librement tel un oiseau. Il n'avait pas non plus la puissance d'un avion propulsé en ligne droite. Pourtant, dans ce rêve récurrent, Juan Diego savait quelle était sa place. De son poste d'observation inversé, il voyait les visages de la foule anxieuse tourner vers lui. Quand il décrivait son rêve à son étrange sœur, il ajoutait « Il vient toujours un moment dans la vie où il faut lâcher les mains, les deux mains. » Naturellement, ce discours ne voulait rien dire pour les oreilles d'une fillette de 13 ans, quand bien même celle-ci aurait été normale. Loupé fit une réponse inintelligible, y compris pour Juan Diego. Un jour qu'il lui demandait ce qu'elle pensait de son rêve de marche à l'envers sur le ciel, elle lui offrit une réponse énigmatique à sa sauce, et dont il comprit tout de même chaque mot. C'est un rêve d'avenir.